Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler des troubles du spectre de l'autisme. Quelles sont les causes, comment diagnostiquer ces troubles et comment s'est fait la prise en charge? Nous avons en ligne professeur Joachim Moukaou Ebouel. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes psychopathologue et promoteur du Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec autisme et handicap mental. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission qui est présente jeudi. Daniel Keshama, la technique, Mimi Kindou.
Chaque année, plusieurs millions de personnes sont bénéficiaires de l'aide humanitaire qui est en droit et ne peut être échangée contre de faveurs sexuelles ou autres services. Ainsi, les relations sexuelles entre le personnel humanitaire et les bénéficiaires de l'aide sont interdites. Les relations sexuelles avec des enfants ou de personnes de moins de 18 ans sont formellement interdites, quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement au niveau local. Une croyance erronée concernant l'âge d'un enfant ne constitue pas un argument de défense. L'exploitation et les abus sexuels constituent de fautes graves et peuvent par conséquent être de motifs des mesures disciplinaires, y compris des renvois sans préavis. Si vous êtes victime ou témoin d'un incident d'exploitation ou d'abus sexuels dont l'auteur est travailleur humanitaire, appelez gratuitement le 49 55 55 pour une assistance. Ensemble, luttons tous contre l'exploitation et les abus sexuels. Ceci est un message de la Coordination nationale pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels.
Bien, nous parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service des troubles du spectre de l'autisme. Eh bien, certains enfants souffrent de l'autisme, un trouble qui affecte leur croissance intellectuelle. Ils ont des difficultés à communiquer leurs pensées, à s'intégrer dans la société et manifestent des attitudes anormales et des comportements parfois violents. Et très peu de personnes ont entendu parler de ce trouble et l'assimilent à la sorcellerie. Certains parents sont complexés, ils ont des enfants autistes, ils préfèrent les cacher à la maison. Alors, quelles sont les causes de ce trouble? Quelles sont les perspectives d'avenir pour ces enfants autistes et comment encadrer leur famille? On en parle avec notre invité, professeur Joachim Moukaou Ebouel, psychopathologue. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci beaucoup.
Voilà. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous dire, professeur, qu'est-ce qu'on entend par trouble du spectre de l'autisme?
Merci beaucoup pour la question et surtout merci pour l'intérêt que vous apportez sur cette problématique. Qui est une problématique de la santé publique. Lorsqu'on parle du trouble du spectre de l'autisme, nous entendons un trouble du neurodéveloppement. Ça, c'est une définition beaucoup plus technique, scientifique. C'est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste généralement chez les enfants âgés de moins de 36 mois, donc les enfants âgés de 3 ans, et chez qui on constate des altérations au niveau de la communication sociale. Donc l'enfant n'arrive pas à bien parler ou il ne parle pas, et où il a des troubles au niveau du langage. Et donc deuxièmement, il y a des altérations ou des difficultés au niveau des interactions sociales. Et on va remarquer que cet enfant qui est âgé de moins de 3 ans, et on va remarquer qu'il a des comportements répétitifs et il fait la même chose à longueur de la journée. Ben donc souvent ça bouleverse beaucoup de parents avec des comportements stéréotypés et peu d'intérêt, n'est-ce pas, aux événements, à tout ce qui l'entoure. C'est ça qu'on entend par trouble du spectre de l'autisme aujourd'hui.
Quand vous parlez de comportements répétitifs, c'est quoi par exemple?
Les comportements répétitifs, c'est le fait que à longueur de la journée, l'enfant peut être en train de courir, il ne fait que courir, il ne fait que courir. À longueur de la journée, l'enfant a un objet dans ses mains, il ne fait que le tournoyer, il ne fait que rire, il peut s'asseoir en train de se balancer la tête. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le comportement stéréotypé, c'est-à-dire que le comportement de tous les jours. Chaque jour, il fait les mêmes choses, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est ça le comportement stéréotypé répétitif. qu'on observe chez les enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme.
Mmh. Il semble que certains peuvent même être violents.
Oui, on constate que chez certains enfants qui ont l'autisme, on constate, vous appelez violent, ben, on parle un peu d'agressivité. L'agressivité ne fait pas partie de caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme, hein, mais ça peut faire partie de troubles associés observés chez certains enfants qui ont l'autisme. Cette agressivité peut se traduire, par exemple, par le fait que l'enfant ne parle pas chez certains enfants qui sont sans parole, ils ne parlent pas. Et d'autres encore peut être associés à ce que nous appelons le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, un enfant qui est instable, mais ça peut aussi être associé à une impulsivité. Donc, il agresse certaines personnes. Mais il est très, très dangereux lorsqu'on n'arrive pas à diagnostiquer à temps chez certains enfants qui ont l'agressivité, ça peut essayer d'évoluer vers une psychose infantile. C'est ce qui a toujours été observé chez certains enfants qui ont l'autisme avec une agressivité importante.
Voilà. Très peu de personnes connaissent ces troubles. Professeur, beaucoup assimilent cela à la sorcellerie. Et les parents sont gênés, ils cachent ses enfants à la maison. Comment devraient-ils se comporter?
Généralement, chez nous, en Afrique, nous constatons ces comportements. Et moi qui suis, dans la majorité des cas, en milieu de pratique, en train de travailler depuis très très longtemps avec ces enfants et avec les parents, nous constatons cela. Pourquoi on considère le comportement autistique comme étant un comportement étrange, comme émanant de la sorcellerie? Eh bien, dans un premier temps, parce que dans notre milieu, l'autisme, les caractéristiques de l'autisme ne sont pas connues. Les caractéristiques de l'autisme sont méconnues dans notre milieu. Parce qu'ils sont méconnus, ce qui est méconnu est bizarre, ce qui est méconnu fait peur. Ce qui est méconnu fait l'objet de plusieurs interprétations. Vous imaginez très bien que vous avez un enfant, cet enfant-là qui est venu, vous l'aviez imaginé, et que j'aurai un beau enfant, il arrive, cet enfant ne parle pas, cet enfant a des comportements bizarres, en train de rire sans objet, en train de tournoyer les mains, en train de hurler. Donc, quelle est l'image qu'on a? Dans la majorité des cas, les parents pensent que le fait que cet enfant ne parle pas, il parle avec d'autres mondes. Le fait que cet enfant a des gestes bizarres, il est en train de communiquer. Voilà, il est en train de communiquer avec l'au-delà, avec le monde inconnu. Le fait que cet enfant ne fait que courir, il y a un esprit qui habite en lui, qui le pousse qu'il puisse courir. Et malheureusement, dans notre pays, en tant qu'Africain, on va toujours recourir, prenons, on va consulter quelqu'un, et quelqu'un qui dirait, ben voilà, je connais un peu le problème, et il est possédé de tel esprit qu'on va chasser. Or, tout celui qui parle du diable, tout celui qui parle de l'esprit mauvais, donc on fait peur. Ça fait peur l'esprit mauvais, ça fait peur le diable, ça fait peur l'esprit maléfique. Comme ça, les parents vont dire, écoutez, comme il est possédé, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la majorité des cas, cet enfant est caché à la maison. Il est caché à la maison aussi, non pas parce qu'il a un mauvais esprit, mais aussi caché parce que le comportement bizarre qu'il manifeste gêne le prestige social des parents. Les parents ont peur, les parents ont honte que cet enfant qui vient à la maison, qui vit chez eux, les amis viennent, la famille vient, on va voir cet enfant qui est nu, qui ne sait pas s'habiller, qui est en train de baver, qui a des comportements, qui monte sur les chaises, sur le fauteuil, ils ont peur. Peur d'entacher leur prestige personnel en tant que parent, en tant que député, en tant que professeur d'université, médecin, en tant que quiconque ayant un statut social, on a peur. On a honte de présenter cet enfant comme étant le leur. Voilà un peu la raison qui fait que dans une certaine mesure, les parents ont une chambre où cet enfant est dans cette maison. J'en connais tellement dont les enfants vivent cachés dans des maisons, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas que dans cette maison, il y a un enfant
ici.
Un comportement bizarre.
Oui. Et qu'est-ce qui est à la base de ce trouble, professeur?
Dans la majorité des cas, et jusqu'aujourd'hui, au niveau de la recherche, nous savons bien que les troubles du spectre de l'autisme, à plus de 75%, est d'origine génétique. Et d'origine génétique, c'est que on sait voir dans une famille où il y a un enfant avec autisme, on sait voir un autre enfant, un peu, le pourcentage est faible, de 1%, 3%, le pourcentage est faible, bien sûr, mais on sait voir dans une population où il y a un enfant et dans une famille où il y a un enfant avec des troubles du spectre de l'autisme, on sait identifier un autre enfant qui a des troubles autistiques, qui n'a pas l'autisme, mais qui a des troubles autistiques, ou alors qui peut aussi avoir l'autisme. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'au niveau de la recherche, la conclusion est que le trouble du spectre de l'autisme est à plus de 70% des cas d'origine génétique. Mais on trouve maintenant une autre proportion d'enfants qui manifestent et qui développent le comportement autistique qui n'est pas d'origine génétique, mais on attribue ça aux autres causes, par exemple les causes environnementales. Nous avons des cas d'enfants avec qui développent des comportements autistiques dont le problème est lié à des perturbations qui se sont manifestées au cours de la naissance. Donc une souffrance fœtale, une souffrance fœtale pendant la grossesse, une souffrance fœtale pendant l'accouchement dans la période néonatale peut faire qu'à un certain moment, lorsque le cerveau a été altéré, l'enfant a été asphyxié. Certains enfants dans cette catégorie développent des comportements autistiques. Nous avons d'autres enfants qui ont été victimes, n'est-ce pas, le fait que tout a été altéré avec le choc émotionnel subi par la mère pendant la grossesse. Donc la mère a été traumatisée de manière sensible pendant la grossesse. Nous constatons dans certaines populations, il y a des enfants qui développent aussi des comportements autistiques. D'autres enfants sont relevés dans la catégorie de ceux dont et qui ont été victimes d'une toxicité médicamenteuse, toxicité alcoolique, et pendant la grossesse, la maman a consommé des médicaments qui ont pu altérer le fœtus, ou alors l'alcool qui a pu altérer le fœtus. Dans une certaine mesure, nous trouvons, n'est-ce pas, certaines populations qui ont des comportements, n'est-ce pas, autistiques. Voilà un peu, de manière avancée, ce que je peux dire de ce qui est des facteurs étiologiques pouvant expliquer le développement du comportement, n'est-ce pas, autistique chez certains enfants jusqu'aujourd'hui dans notre milieu.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Tamboué depuis Béni et Gilbert de Mbandaka. Tamboué, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, d'abord, avant de poser la question, je vais donner d'abord une petite préoccupation. Je pense qu'en réalité, nombreuses maladies sont méconnues en République démocratique du Congo parce que nous n'avons pas la culture là de faire les examens. Tant nous, les grandes personnes, mais aussi à nos enfants. Nous faisons les examens quand nous sommes tellement malades, on peut même arriver à mourir. Maintenant, j'aimerais à ce que l'invité puisse nous dire, parce qu'il a donné tellement les caractéristiques de l'autisme, qu'il nous dise d'abord l'autisme, c'est quoi en réalité, parce que d'abord, c'est ma première fois d'écouter cette maladie-là.
Oui, Tamboué, c'est ce que l'invité vient de faire tout à l'heure. Alors, quelle est la deuxième question?
Oui, la deuxième question qui nous donne un peu les symptômes, comment est-ce qu'on va, on va dire que cet enfant souffre de l'autisme? Et la troisième question et la dernière préoccupation, cette maladie est déjà en République démocratique du Congo et ça décime la population. Quels sont les mécanismes pris par le ministère de la Santé publique pour éradiquer cette maladie? Merci.
Merci. Gilbert de Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour la radio Capi, bonjour c'est l'invité, c'est Gilbert Loup à Londres, depuis la ville de Mbandaka.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, j'aurais deux questions à poser à l'invité, mais avant tout, je dirais que moi, maintenant, j'ai mon petit frère qui souffre de l'autisme, et je vous rassure que cette maladie, le gouvernement doit faire un effort de la considérer comme l'état d'une maladie qui touche la santé publique de la population congolaise. Et la prise en charge de la dite maladie nécessite une réponse urgente et efficace.
Gilbert, comment se comporte votre petit frère et comment tout cela a commencé?
Oui, ça a commencé depuis son bas âge. Hein. Dès qu'il avait, au moins, je crois, 4 à 5 ans comme ça, mais mon petit frère affiche un comportement particulier à la maison. Donc, on peut dire que non, il a laissé à la maison de se comporter comme tel. Et même à 23h, même à 0h, même à 1h, s'il faut crier, il crie. même à 5 heures, s'il faut casser à la maison, il casse. Et ça énerve quelque part. Le problème que nous avons ici en Mbandaka, est qu'en Mbandaka, où je suis présentement, il y a plusieurs cas de la dite maladie ici, mais la prise en charge pose problème. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsque il y avait un centre en Mbandaka qui prend en charge les personnes vivant avec la dite maladie, mon petit frère allait fréquenter et on pouvait avoir une solution.
Et qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez à la maison? Vous l'enfermez dans la chambre tous les jours?
Bon, enfermer, c'est trop dur. On ne l'enferme pas, on le laisse comme toute autre personne dans la maison. Mais sauf que son encadrement pose un problème. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, s'il faut crier, il crie, s'il faut casser, il casse. Donc, il faut avoir une personne permanente à côté de lui pour l'encadrer. Et ça pose problème, je vous l'ai dit. Mais si on avait un centre de l'encadrement de ses enfants, on pouvait l'amener là et on pouvait l'encadrer parce que nous ne pouvons pas charger toute une personne à la maison pour seulement encadrer ses petits. Donc, ça énerve. Il y a aussi le problème que nous avons ici à la maison qui est on garde une personne qui est malade, mais on ne sait pas quand et où il sera guéri.
À l'hôpital général de Ouangata, il n'y a pas de référence là-bas, il n'y a pas une structure de prise en charge.
Si, non, je me dis que non. Nous sommes à la radio, on ne veut pas tout dire, mais. C'est pas le cas, si c'était le cas, on pouvait amener notre petit frère.
D'accord,
donc,
on comprend.
Il n'y a pas vraiment de spécialistes
en Mbandaka.
Oui, qui peuvent prendre en charge les
troubles.
J'ai des questions à poser à l'invité. La première, c'est de savoir, on voit les symptômes ou les agissements des malades souffrant avec l'autisme. Est-ce qu'il n'y a pas parce que si vous voyez comment se comporte un malade de l'autisme, est-ce que l'autisme n'a pas de lien avec la maladie qu'on appelle souvent méningite? Parce que ce sont les mêmes signes. Ce sont les mêmes signes. Lorsqu'une personne souffre de méningite ou une personne atteinte de méningite a des symptômes similaires.
D'accord.
Une personne souffre avec autisme.
Merci,
et
Gilbert.
Une question, je veux aussi savoir, est-ce que c'est une maladie qui date de longtemps ou c'est une nouvelle maladie chez nous en République démocratique du Congo?
Merci, Gilbert. Merci. D'accord. Patoka, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, monsieur Dodi Daniel Kassamba, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Oui, je m'intéresse aussi à monsieur l'invité de me donner un peu, est-ce que les troubles de l'autisme, il est apparu seulement que ça attaque les enfants de moins de 3 ans. Ça ne peut pas aussi attaquer les personnes les plus âgées. J'ai dit et je vous remercie.
Bien, merci. Professeur Joachim, vous avez la parole.
Merci beaucoup à tous les auditeurs pour leurs questions et surtout pour l'intérêt qu'ils accordent à cette problématique. Donc, d'abord, je pense que j'avais déjà défini ce qu'on entend par autisme. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui généralement est observé dont les caractéristiques sont observées chez les enfants dès que l'enfant est âgé de moins de 3 ans, on constate déjà qu'il y a des problèmes au niveau de sa manière de parler, il y a des problèmes au niveau de sa manière de vivre avec les autres, et on constate qu'il ne s'intéresse pas, à tout ce qui est environnement. Et ça, c'est ce qu'on entend par autisme. Maintenant, quant au mécanisme du traitement, l'autisme, d'abord, je vais corriger, l'autisme n'est pas une maladie. J'entends les gens dire souffrir de l'autisme, et cette maladie, l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme est un état. L'autisme est un état. Quelqu'un qui a l'autisme se trouve dans une situation, dans un état où son comportement, son développement est perturbé. Donc, c'est pourquoi on doit dissocier l'autisme d'une maladie. Il est vrai que chez une personne qui a la maladie et qui a l'autisme,
on s'est trouvé d'autres troubles associés à l'autisme. Ce sont des troubles, des maladies, des certaines maladies qui peuvent venir se greffer sur l'autisme. Mais on ne dira pas que l'autisme est une maladie. Et nous, comme il a parlé, il a fait allusion à la méningite, par exemple, il est vrai que chez certains enfants qui ont l'autisme, on s'est trouvé beaucoup de problèmes d'autres. Notamment, un enfant avec autisme peut également avoir souffert de la méningite. Il peut avoir souffert de la méningite. Mais la méningite ne sera pas la cause de l'autisme. La méningite sera une cause qui vient se greffer, n'est-ce pas, sur l'autisme. Or, vous savez bien que la méningite va abîme le cerveau de l'enfant. La méningite. La méningite abîme, en tant que maladie, va abîmer le cerveau de l'enfant et fera que l'enfant qui parlait ne parle plus, l'enfant qui marchait ne marche plus. Et pour certains enfants, ça peut même aller abîmer sa manière d'entendre, il n'entend plus, il ne voit plus. Donc, oui, on peut trouver chez l'enfant qui a l'autisme la méningite. Mais la méningite n'est pas l'autisme et l'autisme n'est pas la méningite. Maintenant, oui, l'autisme aujourd'hui, pour répondre à la question du monsieur de Mbandaka,
oui.
L'autisme aujourd'hui est une problématique de la santé publique. C'est vrai, l'autisme est admis partout dans le monde comme problématique de la santé publique. Et chez nous, dans notre pays, en RDC, et si vous allez au ministère de la Santé, au secrétariat, vous verrez bien que on parle, donc l'autisme est classé parmi les maladies non transmissibles. Non transmissibles. Donc, c'est un problème de santé publique, bien que...
Et il se pose un problème au niveau de la prise en charge. En Mbandaka, là-bas, vous avez suivi l'exemple, oui, de Gilbert, qui a son petit frère, qui souffre de l'autisme, mais ils savent pas où aller pour la prise en charge.
Oui, mais le problème de M. Gilbert n'est pas unique. Je vous dis la vérité que le problème de Gilbert n'est pas unique. Le problème de la prise en charge des personnes, des enfants qui ont de l'autisme, se pose à travers tout le pays. La pathologie n'est pas connue. N'est pas connue au niveau du pays, n'est pas connue au niveau des milliers de pratiques, notamment les médecins ne connaissent pas ce que c'est l'autisme. Il n'y a pas des éducateurs qui ont la formation sur l'autisme. Même les psychologues n'ont pas l'information. Donc, il y a nécessité. Cette question-là, sa question m'envoie à dire, à parler même en termes de plaidoyer. Il y a nécessité à ce qu'il y ait des gens qui soient formés pour essayer de s'occuper des personnes qui ont l'autisme, des enfants qui ont l'autisme. Partout dans ce pays, il n'y a pas assez de centres spécialisés. Les seuls centres spécialisés sont concentrés à Kinshasa et puis il y a encore un centre à Lubumbashi qui se bat, mais il n'y a pas d'autres centres à travers le pays qui développent, n'est-ce pas, de manière systématique les évaluations et mettent en place les interventions en faveur des enfants qui ont l'autisme. Alors pour ceux qui sont en Mbandaka, ils ne prennent pas cet enfant comme s'il est malade. Il n'est pas malade, il a cette pathologie-là, j'imagine, parce qu'on n'a pas encore posé le diagnostic, j'imagine, et qu'il a le comportement, comme il a le comportement autistique, il faudra bien qu'il puisse le gérer. Il faudrait bien qu'il puisse le gérer. Comme vous avez parlé du centre qui est à Ouangata, mais il doit voir si là-bas il y a un neuropsychiatre qui pourra ne plus que prendre en charge cet enfant sur le plan du comportement pour essayer de voir comment, quel médicament il peut donner afin que l'enfant puisse se calmer. Mais les parents doivent gérer cet enfant. Ils doivent gérer cet enfant. Comme il n'y a pas une institution, la seule recommandation que je peux faire, c'est de voir s'il y a une école spécialisée sur place. L'enfant peut aller dans une école spécialisée. Et puis, s'il y a un médecin, un neuropsychiatre qui est là-bas en Mbandaka, il peut le contacter, le neuropsychiatre peut entrer en contact avec nous, nous pouvons parler et puis on peut voir comment les aider à pouvoir prendre en charge ou améliorer les conditions de vie de cet enfant. Donc, il pose la question de savoir est-ce que l'autisme date depuis longtemps dans ce pays, est-ce que c'est une nouvelle maladie. Donc, comme j'ai dit, l'autisme n'est pas une maladie, mais c'est une pathologie qui a existé depuis très longtemps, depuis que nous existons. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'autisme en RDC? Tout cela est venu à l'aide, donc, à travers ma recherche doctorale, lorsque je suis allé étudier en Belgique. C'est alors que, avant d'aller, je voyais des cas comme ça ici dans notre pays. Je suis allé étudier en Belgique. C'est alors que je suis revenu ici pour sensibiliser la population depuis 2001. C'est depuis 2001 que la population congolaise a été sensibilisée, a commencé à être sensibilisée au niveau de médecins, au niveau des écoles spécialisées, afin que nous puissions savoir que dans notre pays, en dehors de tout autre enfant qui ont la surdité, qui ont la déficience intellectuelle et des troubles de tout ça, mais qu'il y a une catégorie d'enfants qu'on ignore, qui est les enfants qui ont l'autisme. C'est à partir de là que les yeux sont en train d'être ouverts, les gens sont en train d'être sensibilisés. Donc, l'autisme est une pathologie qui a existé depuis longtemps, mais méconnue dans notre milieu.
Professeur, s'il faut avoir le panorama, l'incidence de l'autisme dans notre pays, on peut évaluer à combien de pourcents la prévalence,
oui, le taux de prévalence. Oui, très importante. Si nous considérons la prévalence mondiale, nous pouvons dire aujourd'hui, si je considère que notre pays, en RDC, nous sommes 92 millions d'habitants, avec des petits calculs, on peut trouver que nous pouvons en tout cas avoisiner 6 millions à 7 millions de personnes vivant avec autisme dans notre pays. Donc ça, c'est au niveau des statistiques, si on s'en tient sur les statistiques de l'OMS et d'autres recherches qui sont menées au niveau, donc à travers d'autres pays. Mais c'est vrai que chez nous, dans notre pays, nous n'avons pas encore mené des études de prévalence. Mais si je considère la ville de Kinshasa, admettons que je puisse penser que la ville de Kinshasa à 10 millions d'habitants, donc il y a plus ou moins 600 à 700 000 personnes vivant avec autisme dans la ville de Kinshasa. Vous voyez bien que c'est pas peu, c'est que nous avons vraiment des personnes qui ont des comportements autistiques dans notre pays, mais dont on ignore. Et ces personnes, les unes sont d'intelligence normale, mais vivant avec ça, on ne sait pas comment les gérer. Mais d'autres sont des personnes dont certaines pathologies médicales sont allées se greffer sur l'autisme, mais qui créent pas mal de problèmes en famille, à l'école, même en milieu de travail.
Bien.
Voilà un peu sur le plan des prévalences.
Troubles du spectre de l'autisme, quelles sont les causes? Comment se fait les diagnostics et la prise en charge? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service des questions et préoccupations, composé le 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, troubles du spectre de l'autisme, quelles sont les causes et comment doit se faire la prise en charge? Malonga nous appelle des Bandundouville. Bonjour.
Bonjour à notre invité, en tout cas, que j'apprécie beaucoup par ses explications concernant l'autisme.
Quelle est votre question alors, Malonga?
Bon, ma question, si j'ai très bien suivi l'invité, moi je vois que ce sont les parents qui sont les principaux vecteurs à ces enfants pour qu'ils soient victimes de l'autisme. Puisqu'il a dit quelque part que si les parents sont habitués à l'ivresse et à d'autres choses, à des troubles, ils peuvent mettre au monde les enfants qui sont victimes de l'autisme.
Bon, il a identifié plusieurs causes. Il y a des causes génétiques, il y a la souffrance fœtale, il y a les chocs émotionnels, et puis la toxicité, médicaments, quand on prend beaucoup de médicaments toxiques ou de l'alcool, voilà.
Ok. Je suis en route pour d'autres choses-là. Ce que j'ai dit, que si les parents sont là, l'État aussi doit être inclus, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, au temps de Mobutu, on respectait vraiment la journée. Hein, de 7h jusqu'à 16h, l'ouverture des bars. Mais vous voyez que des parcelles qui sont vraiment attachés autour des bases, les enfants, les nouveaux-nés, s'ils sont là, en tout cas, ils ne seront pas tranquilles. Il y a d'autres aussi, le boîte de nuit, là où on vend les chambres, se trouve vraiment en barre de public de tout le monde. Les enfants aussi, ces fumées-là, hein, les entraînent. Nous, ce sont des, et c'est l'État qui doit maîtriser et régulariser ces choses pour faire échapper aux enfants à ce genre de maladies. Non, ce n'est pas maladie, puisque le
trouble.
A dit que ce n'est pas une maladie, à ces troubles-là.
D'accord, donc, d'accord.
J'avais suivi encore.
Rapidement, Malonga.
Les enfants de moins de 5 ans. Bon, si l'enfant qui était victime de l'autisme, moins de 5 ans, s'il arrive à 5 ans, il est toujours victime. Est-ce que il est propice à la guérison ou bien à la mort? Bon, c'est par là où je veux demander à l'invité de bien expliciter. Il explique très bien.
D'accord.
Mais c'est, en tout cas, c'est un nouvel cas pour moi de voir ça. Je vois toujours les enfants, tout ça troublé, incompréhensif. C'est là, à cet âge-là, vous envoyez les enfants, ils sont comme ça. Non, ce n'est pas vraiment succès. Or, que c'est l'autisme qui leur fait souffrir comme ça.
D'accord. Merci beaucoup. Isaac Tchone, vous êtes à Colézy. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités. Bonjour à tous les auditeurs.
Rapidement, Isaac, quelle est la question? Rapidement.
Merci beaucoup. C'est juste une petite contribution. Par autisme, on comprend une sorte de perte totale ou partielle du contact avec le monde extérieur. Ça veut dire, en d'autres termes, que les sujets qui souffrent, qui en souffrent plutôt, présentent une sorte de syndrome caractérisé par un repli sur soi-même, une méfiance totale de la présence physique avec autrui, une perte de contact avec la réalité et une difficulté à communiquer avec autrui. Ce comportement est souvent pathologique par un sujet ayant l'âge variant entre 3 et plus ou moins 7 ans. Il s'agit en effet d'un enfant qui se sent incompris sur le plan affectif et manifeste une sorte de crise d'opposition, le sentiment de honte et cherche à faire valoir son affirmation de soi.
D'accord.
À travers les attitudes telles que la désobéissance, la fabulation, le question.
Merci.
Par exemple,
merci Isaac Tchouni. On n'a pas beaucoup de temps. Professeur Joachim, à vous la parole.
Merci beaucoup à tous les auditeurs et surtout aussi merci pour les questions qu'ils ont posées. Bon voilà, donc le premier auditeur de Bandundu voulait faire allusion quand même sur le parent, mais ça quand même ça donne bien que le journaliste l'a un peu recadré, mais c'est vrai qu'à un certain moment dans le temps, depuis le temps ancien, on croyait que l'autisme était causé par le parent, on croyait que le parent était auteur de l'autisme. C'est pourquoi dans le temps avant 1943, on était en train d'appliquer la psychanalyse, c'est-à-dire que on prenait les parents, on les conseillait avec l'idée que une fois les parents changent leur comportement, ça va agir sur l'enfant. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Et puis, nous savons que l'autisme est à plus de 70% de cas d'origine génétique. Et il y a des facteurs que j'ai cités, n'est-ce pas, qui sont expliqués dans le contexte, n'est-ce pas, de l'autisme. Donc, les parents ne sont pas victimes de cela essentiellement. Alors, lorsqu'on dit, l'enfant âgé de plus de 5 ans, chez qui on constate qu'il y a des comportements autistiques, est-ce qu'il pourra encore améliorer son comportement? J'ai toujours dit, c'est vrai, qu'on parle aujourd'hui du diagnostic précoce. Diagnostic précoce, il faudrait bien que les parents soient éveillés. Le comportement devient de plus en plus visible, les symptômes de plus en plus visibles dès 18 mois. Dès 18 mois d'âge de l'enfant, en tout cas, on remarquera que cet enfant n'a pas des compétences linguistiques. Les babillages sont un peu absents ou saccadés. Même si les babillages sont présents, on constatera que ça va évoluer, mais ça va s'arrêter. Il y aura la régression sur le plan du développement du langage ou bien l'arrêt dans le développement du langage. Donc ça, on va constater ça aux alentours jusqu'à 24 mois. Il y a des problèmes déjà. Si les parents sont éveillés, ils vont constater ça. Mais lorsque l'enfant atteint 5 ans, il ne parle pas. Ce qui est vrai, c'est que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que le développement du cerveau à ce moment-là, on doit forcer des choses. On doit aller par la rééducation du langage. On doit systématiser la prise en charge, n'est-ce pas, du langage oral, l'enfant, pour lui apprendre à parler, à pouvoir prononcer le vocabulaire, ainsi de suite. Ça crée beaucoup plus de problèmes. C'est pourquoi nous parlons que dès que vous constatez qu'il y a un problème sur votre enfant, il ne parle pas, ou il a parlé, il s'est arrêté, la parole s'est arrêtée, et il n'articule plus les mots alors qu'il a commencé à bien le faire, ou bien il ne parle même pas, rapidement, allez voir le spécialiste. Commencez par le pédiatre, et les pédiatres nous connaissent, nous, ils vont essayer de recommander l'enfant pour que nous puissions confirmer et voir qu'est-ce qu'on doit faire. Il ne faut pas attendre. Dans une certaine mesure, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que non, il parlera parce que son père a parlé en retard, et il parlera parce que la mère a parlé en retard. Ça, tout ça, ça retarde. Ça retarde parce que l'enfant ne se développe pas parce que nécessairement, il y a le parent qui a parlé en retard, lui aussi va suivre ce chemin-là. Donc, dès que vous constatez que l'enfant ne parle pas, rapidement contactez, n'est-ce pas, un spécialiste. Donc
professeur Joachim, est-ce que c'est possible de communiquer vos contacts ou bien l'adresse où les gens peuvent vous joindre facilement?
Oui, c'est possible de pouvoir communiquer les contacts. Si quelqu'un veut me contacter, appelez-moi au 081 19 35 202. 081-19-35-202. Par là, vous allez m'avoir et posez-moi toutes les questions. Et puis, on va voir comment on peut faire pour essayer de répondre à vos préoccupations.
Merci, professeur Joachim Munkau et Bouel. Je rappelle que vous êtes psychopathologue. Et excellente journée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Trouble du spectre de l'autisme, quelles sont les causes, comment se fait les dépistages et la prise en charge? Nous avons en ligne Dr Ali Njukenji, neuropsychiatre au CNPP. Dr Ali, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Avant d'aller plus loin, on va accueillir Laurent de Kinshasa. Bonjour, Laurent.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Laurent, rapidement?
Ma question était celle de savoir... Une fois l'enfant est diagnostiqué autiste, alors la prise en charge se fait comment? Je prends un exemple, parce que parmi les caractéristiques énumérées, un enfant peut avoir l'autisme mais parle. Alors, si on le mettait dans un groupe d'enfants qui ne parlent pas, est-ce que cela ne peut pas influencer aussi au langage de l'enfant? C'est ce que je voulais savoir. Et comment prévenir... à ces problèmes-là chez un enfant qui parle mais qui est mis dans un groupe d'enfants qui ne parlent pas.
Bien, docteur Ali, à vous la parole.
Effectivement, il y a un type d'autisme qu'on appelle Asperger où il y a quand même le développement du langage en part d'autres signes ou des retraits sociaux et des stéréotypies. Ces enfants, lorsque le langage est développé, il a la possibilité d'être accompagné et intégré même l'école normale. Il y a des cas que nous avons reçu, même des enfants qui sont dans des écoles belges, ainsi de suite. Mais ils devaient être accompagnés. Hormis le langage, il y a d'autres signes. Mais ce qui est plus important, c'est de voir le dépistage. Hormis le langage, il y a aussi ce qu'on appelle des comorbidités. La prise en charge, le dépistage aujourd'hui, le dépistage, monsieur, tout le monde peut le faire, pas seulement un spécialiste. Même une maman qui voit son enfant, il sait le développement normal d'un enfant, il peut se dire que non, à cet âge, l'enfant fait ceci, cet enfant ne le fait pas. Il peut déjà dire que non, il y a un problème. Malheureusement, ce sont des troubles qui sont méconnus, non seulement par les parents, mais aussi et surtout par les spécialistes, les professionnels, certains professionnels de santé. D'où l'évaluation se résume dans le fait qu'il faut déterminer les causes. mobilité. Hormis les troubles du spectre autistique que les enfants présentent, il peut avoir l'épilepsie, il peut avoir l'hyperactivité, il peut aussi avoir un retard mental. Lorsqu'il y a beaucoup de comorbidités, cela aggrave un peu le pronostic chez l'enfant.
Bien, docteur Ali, où aller maintenant pour faire le dépistage? Il semble qu'il n'y a pas assez de spécialistes qui peuvent prendre en charge les cas d'autisme.
C'est ça l'importance même des sensibilisations sur l'autisme. Vous savez, chez nous, l'enfant congolais n'existe pas, parce que si on devait suivre le carnet de santé des enfants, qu'on a réduit seulement, apprend à prélever le poids et la taille et puis les vaccins. Dès qu'on a les derniers vaccins, on arrête. Alors qu'ailleurs, on suit l'enfant jusqu'à 59 mois. Et là, ça allait permettre de voir, hormis le développement centuro-pondéral, on devait voir le développement psychosexuel et le développement social de l'enfant. On allait dire que l'enfant a des problèmes dans tel domaine. Et dès qu'on a un problème, on pourra orienter l'enfant pour un bon accompagnement, une bonne prise en charge. Et ça serait une prise en charge même précoce. Donc, où aller? Les pédiatres, comme ce sont les enfants, sont les pédiatres d'abord qui sont en première ligne chez les enfants. Mais ici, chez nous, on a souvent ce qu'on appelle un parcours thérapeutique chaotique. C'est-à-dire, quand on voit les pédiatres, ça ne va pas. Parce que ce qui pose comme problème chez les enfants, c'est le langage. On a l'impression que l'enfant a des problèmes d'audition. On l'amène chez l'oreilliste. L'oreilliste se trouve que l'audition est normale et s'arrête là. Donc, tous les spécialistes sur qui passent les enfants doivent se rendre compte que dès qu'il y a un problème, on vient seulement pour un problème d'écoute ou d'audition, qui transcendent, qui cherchent encore d'autres signes, il y a un trépied, et dès qu'ils ont ça, ils pourront orienter chez les médecins.
Docteur Ali, l'année dernière, je crois en 2019, le président de la République avait inauguré un centre national de référence en diagnostic d'autisme, Congo Autisme à Limété. Est-ce qu'on peut dire que c'est là où il faut référer les malades?
Oui, c'est bien beau de créer un centre, je ne sais pas si c'est un centre à niveau national ou c'est un centre privé, ça pose encore problème. C'est un problème de santé publique. Ça devait être, monsieur tout le monde, dans tous les centres, et qu'on puisse même mettre ça dans les déclarations des maladies. Il y a un système dans le ministère de santé où dès qu'on a un problème, on déclare qu'on a telle maladie. Ce sont des maladies qui doivent normalement intégrer. Le problème de dépistage à notre niveau ne se pose pratiquement pas ces derniers temps. Les gens savent déjà que, d'ailleurs, les parents, quand ils amènent leurs enfants, disons à plus de 70%, ils savent déjà que c'est l'autisme. Ce qui pose problème maintenant chez nous, c'est la prise en charge. Parce que cette prise en charge doit être une prise en charge multidisciplinaire. Vous savez, avec l'avènement ici aujourd'hui de la gratuité, il n'existe pas un centre public au niveau de notre pays qui s'occupe non seulement des enfants autistes, mais aussi des enfants à problème. Les quelques centres qui existent, ça peut être les catholiques, Caritas, Congo, avec les villages pour des reconstructions, ils s'occupent quand même de ces enfants, mais à quel prix? Les centres qui existent aujourd'hui d'intervention sur les enfants autistes de notre pays, ce ne sont que des centres privés. Et avec la gratuité, ces parents qui doivent amener leurs enfants dans les centres où on paye cher, ça pose problème. Conséquence, il y a une déperdition des malades qu'on peut bien prendre en charge. J'aurais aimé que ça soit dans des institutions. On peut bien créer, Congo Autisme, on peut créer des organisations, bien sûr, mais il faut que ça soit intégré dans les circuits tout à fait normal de prise en charge d'autres maladies.
On va accueillir Victor de Kisangani. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Je suis dans la ville de Kisangani, une ville où il n'y a pas un centre pour la prise en charge de ces malades. Alors, je ne sais pas si le prophète nous aider. Comment entrer en contact avec lui pour résoudre certains problèmes chez ce malade?
Voilà, vous avez un cas d'autisme dans la famille?
Oui, dans la famille.
Voilà, docteur Ali, comment vous entrer en contact avec vous? Monsieur Victor, il est à Kisangani, il n'y a pas des centres de prise en charge là-bas ou des dépistages, alors il voudrait échanger avec vous peut-être après l'émission. Est-ce que vous pouvez lui communiquer vos contacts?
09.
Oui.
Okay. 09 98.
Ok.
24 76 40.
Merci beaucoup.
Mais il est vrai.
Vous pouvez répéter, docteur?
Kisangani, même s'il n'y a pas de centre spécialisé, on s'occupe de ces enfants, il y a quand même des médecins au centre neuropsychopathologique. Il y a un médecin qui a été formé de Kisangani, qui a fini sa spécialisation, qui a quand même des notions sur le trouble. Si vous allez à Kisangani, je crois au centre de l'université ou au centre par l'hôpital général, on a la possibilité de pouvoir orienter. Ce que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout ailleurs en RDC, les problèmes de prise en charge multidisciplinaire posent énormément de problèmes. Donc on doit s'y mettre.
Docteur Ali, vous pouvez répéter, si possible, de répéter encore une fois le numéro.
09.
09.
98.
98.
24.
24.
76.
76.
40.
40. Merci beaucoup. Alors, docteur, est-ce qu'il existe aujourd'hui des écoles spécialisées où on peut envoyer ses enfants autistes étudier? Parce que beaucoup de parents, ils savent pas quoi faire, ils gardent ses enfants à la maison, ils sont hyperactifs. Certains les enferment peut-être dans la chambre pendant toute la journée et ça les gêne, ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Les écoles spécialisées, j'ai dit, il existe. Toutes ces écoles, ce sont des écoles privées. Hormis l'école du village Bundekwave, Caritas Congo, qui a quand même, qui s'occupe quand même de ses enfants. Toutes les écoles existent à Kinshasa, du moins, sont des écoles privées. Vous avez bon départ à l'imiter. Le professeur Mouka aussi a certaines succursales des écoles à Lemba, à Lupen. Il y a aussi d'autres centres à Ngiringiri. Il y a un centre aussi à Mongafula. Il y a des centres. Si nous sommes en contact avec des malades, généralement, nous orientons les malades vers ces différents centres. Mais la question demeure, dans ces différents centres aussi, il n'y a pas tout le personnel qui est formé de manière spécifique sur la prise en charge. Des deux, dans ces différents centres, on met tous les enfants ensemble, tous les enfants qui ont des problèmes, des troubles neurodéveloppementaux. Des manières spécifiques sur l'autisme, il n'y en a pas.
Voilà, il y en a pas. Mais déjà, pourquoi il y a pas assez de centres? Cela veut dire que même au niveau de l'université, la formation, on ne forme pas les spécialistes dans les secteurs.
À l'université, on forme quelqu'un qui doit s'occuper des enfants. Il n'y a pas qui doit s'occuper d'une telle pathologie. La formation, il y a. On intègre maintenant tous les troubles neurodéveloppementaux, que ce soit aux cliniques universitaires en pédiatrie, que ce soit au CNPP, en neuropsychiatrie, tous les médecins ont l'information. C'est pourquoi j'ai dit, sur le plan des diagnostics, on peut poser des diagnostics et même déterminer les comorbidités qu'on peut déjà commencer à prendre en charge. Mais ce qui reste maintenant, c'est l'intégration, l'adaptation et surtout leur scolarisation.
Bien, on va accueillir Enoch de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, c'est Enoch Ngongo de Lubumbashi.
Quelle est votre question rapidement?
Oui, je vais demander d'abord à l'invité concernant cette maladie. Est-ce que, concernant les chambres aussi, est-ce que ça peut aussi contribuer à ça? Parce qu'on voit des femmes qui prennent des chambres, des alcools. Est-ce que avec les chambres aussi, ça peut contribuer par rapport à cette... cette déficit de cette maladie.
Bien, merci. Docteur Ali.
Bon, directement, je dirais non, parce que c'est une maladie génétique, à moins que les chambres aient un impact sur l'épigénétique, pour intervenir là-dessus, mais le plus souvent, c'est une maladie génétique. Il y a d'autres troubles peuvent survenir qui miment un peu les troubles du spectre autistique. Souvent, il y a des enfants qui sont nés normalement, par exemple, au cours d'une infection qui auront fait la méningite. Après la récupération, l'enfant perd certaines de ses qualités. Et là, on ne parle pas de l'autisme comme maladie, on parle des signes, des symptômes comme des conséquences. Là, ce n'est pas de l'autisme.
Alors, dites-nous, docteur, si l'enfant est bien pris en charge, est-ce qu'il peut retrouver l'usage de la parole et s'intégrer dans la société, et puis, bon, voilà, évoluer comme tout autre enfant?
Vous savez, l'autisme, c'est-à-dire, c'est comme si on a un problème, on est comme l'albinisme. On est albinos, on peut étudier. L'autisme, parce que nous, quand nous voyons des enfants autistes, on voit seulement les enfants qui ont parfois un retard mental. Il y a aussi des enfants autistes qui ont un potentiel très développé. Ils sont très intelligents, ils sont doués dans certains domaines, mais le seul problème pour eux, même quand ils ont un retard mental, c'est un retard mental sélectif dans un domaine donné, c'est-à-dire... Et c'est pas global. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a, par exemple, 3 ans, qui n'arrive pas à faire des choses que les enfants de 3 ans peuvent facilement faire. Mais il fait au-delà, parfois, de ce que les enfants de 3 ans normaux ne peuvent pas faire. Donc, avec un accompagnement, un très bon accompagnement, il y a la possibilité de commencer, même par rapport à la scolarisation. L'enfant peut commencer à une scolarisation spécialisée, et puis il va shifter après dans une scolarisation normale. Mais ça ne sera pas dans le même âge. Parce que nous, quand on met les enfants à l'école, on tient compte de l'âge physique. Mais là, c'est en fonction de l'âge mental. Physiquement, l'enfant peut avoir 10 ans, mais son âge mental, c'est un âge mental de 6 ans. à 10 ans, il va intégrer la scolarité normale des enfants de 6 ans. Donc, avec une prise en charge multidisciplinaire qui ne tient pas compte seulement des médecins, il y a des orthophonistes, il y a des enfants autistes qui ont des problèmes sur la motricité, comment écrire, et ainsi de suite. Si on tient compte d'une bonne évaluation de l'enfant, on détermine les problèmes que l'enfant pose et la prise en charge est individualisée.
Bien, docteur Ali Njoukendi, je rappelle que vous êtes neuropsychiatre au CNPP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
Merci, pareillement.
Et oui, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Marcel Ngombo a assuré la coordination et la réalisation à la technique. C'était Mimi Kindou au micro. Jeudi, Daniel Kachama. Tout à l'heure, vous allez suivre les informations. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.